Vous êtes sûr que Proust était homosexuel, Thérèse ?
Dites-moi, mon petit vieux, pour faire de la littérature, attendez la retraite.
C'est important, la lecture. Je te vois jamais lire, toi, Polo.
Apprenez-moi à monter comme un homme.
Et à chiquer du tabac comme un homme.
À cracher comme un homme.
Quoi ? On vous l'a pas appris à la fin de vos études ?
Vous êtes sur Syllab et vous écoutez J'irai cracher sur vos ondes, l'émission qui s'intéresse aux objets et aux faits de littérature. Avec moi, il y a juste Sandrine cette fois. Coucou Sandrine.
Eh bien, bonjour Cécile, bonjour à toutes et à tous, et bonjour Elisabeth.
Avant d'attaquer le dur de notre émission, on va s'écouter un petit flash info préparé par Agathe.
Et bonsoir à tous, aujourd'hui paraît le livre d'Édouard Philippe, intitulé « Impressions et lignes claires ». L'ouvrage est très attendu dans le monde politique. L'ancien Premier ministre se confie notamment sur ses 3 ans à Matignon. L'annonce de la publication fait espérer à certains que la personnalité politique préférée des Français se présentera aux élections de 2022. Une autre parution jeudi dernier, celle d'un manuscrit inédit de Marcel Proust. Les brouillons de la recherche avaient été retrouvés dans un carton après la mort de l'éditeur de Proust, on découvre dans ses 75 feuillets l'origine de la fameuse Madeleine. Lundi 29 mars, Arnaud Nourry, le PDG du groupe Hachette, a été démis de ses fonctions. Pierre Leroy, secrétaire général du groupe Lagardère, est choisi pour le succéder. À l'origine de cette éviction, un profond désaccord quant au rapprochement avec le groupe Bolloré. La première radio française a dévoilé les 10 titres sélectionnés pour son prix annuel, vendredi. Parmi les auteurs en lice du 47e prix France Inter, on trouve Miguel Bonnefoy, Franck Bouys ou encore Marie-Anne Diaye. Le lauréat sera dévoilé le 7 juin. En est-ce vraiment fini avec Eddie Bellegueule ? L'écrivain de 28 ans raconte de nouveau l'histoire familiale dans un livre paru jeudi. Combat et métamorphose d'une femme, publié chez Seuil, s'intéresse cette fois-ci à la mère d'Édouard Philippe et à l'évolution de leur relation depuis l'apparition de son premier roman en 2014.
Merci Agathe pour cette page d'info. Alors, ce soir, Sandrine, je crois que tu nous as préparé un petit menu complet, entrée, plat, dessert, c'est bien ça ?
Alors oui, c'est ça, un menu complet, complètement passionné et émouvant.
C'est un peu ta marque de fabrique, ceci dit.
Merci Cécile. Eh bien, je vous laisse découvrir la voix et les mots d'Elisabeth, Elisabeth Bouchot, autrice publiée chez Animal Debout pour son roman La Hure. On l'écoute tout de suite.
Je suis ravie d'être aux côtés d'Elisabeth Bouchot pour cette interview. La lecture de sa nouvelle La Hure, publiée chez Animal Debout, m'a donné envie d'aller à sa rencontre. De sortir du cadre d'auteur et lectrice, pour lui dire comme j'ai été touchée par la beauté, la magie, la lumière de son texte, lu il y a quelques semaines chez moi. Et pour partager avec les auditrices et auditeurs de Syllab, entendre, écouter d'où vient ce souffle d'écriture si étoffé, si remarquable. Bonjour Elisabeth.
Bonjour.
Et je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Vraiment.
Avec plaisir.
Vraiment, merci. Et bonjour Rose.
Allez, chat t'invite.
Et c'est pour moi, je pense que ça s'entend, très très intimidant à la fois, très fort, mais hyper enthousiasmant aussi. Voilà. Partager avec les auditeurs cette lecture, cette magnifique lecture. Elisabeth, quel est ton état d'esprit tout de suite, maintenant ? Comment vas-tu ? Comment...
Ça va, écoute, je suis détendue, je suis voilà, en bonne posture, en bonne compagnie et touchée aussi de, voilà, d'être face à quelqu'un qui a rencontré mon texte.
Eh oui, j'ai été bouleversée par ta nouvelle, par les émotions qu'elle suscite, sa force, sa profondeur et je le suis encore dès lors que j'ouvre les pages et pose mes yeux sur ces phrases. En fait, être envoûtée par cette histoire qui appartient au passé et que tu as fait naître, renaître, revivre, pourrais-je dire. Mm-hmm. Est-ce que tu veux bien nous dévoiler le sujet sans tout nous dire ?
C'est un jeune homme. Donc ça se situe époque Renaissance. Et qui nous partage en fait sa vision du monde. Mm-hmm. Sa vision et surtout son rapport très très particulier, très instinctuel et sauvage à la nature. Et aux autres. Voilà, c'est vraiment c'est sa lecture du monde, en fait. Je ne sais pas trop comment le définir autrement.
Mais c'est très clair, ouais, tout à fait. Sa lecture du monde, très bien. Bon, évidemment, ta nouvelle est envoûtante, je ne cesse de le dire. Est-ce que tu as conscience de sa force, de son énergie ? Et par quoi étais-tu habitée quand tu as écrit ce récit ?
Ben, j'étais habitée par le personnage. Et cette force, cette énergie là, oui, c'est bien ce personnage qui me l'a donné en fait, qui est venu me hanter en fait. Mm-hmm. Donc je suis pas allée chercher son histoire.
D'accord.
Il est venu me la raconter avec insistance. D'abord par des sons, des images, des sensations, des odeurs. Mmh. Et je ne comprenais pas ce qu'il me racontait.
Ouais.
Et j'ai mis du temps, parce que ça a duré peut-être des mois, peut-être des années, avant de remettre un fil sur toutes ces images qui m'étaient envoyées. Mmh. Et d'arriver à dire, ah ok, d'accord, c'est ton histoire que tu me racontes et tu veux que je la raconte. Mmh. Et c'était effectivement puissant pour moi aussi, parce que ça poussait, il fallait ouais. que je la raconte.
Ouais.
Mais c'était compliqué, parce qu'il a fallu que je démêle tout ça, que j'arrive à trouver dans quel ordre, quelle était l'histoire que racontaient ces images, ces sensations.
Mmh. Très bien, et j'ai entendu que tu parlais d'odeur, d'impression.
Ouais.
Et moi, j'ai aimé y sentir la terre,
ouais.
les sous-bois. Alors, je dis le Moyen-Âge parce que là, ce sont mes propres projections par rapport à ton histoire, à ton récit. Et tu parles de Renaissance.
Mm.
Je parle de superstition.
Mm.
C'est pas vraiment le mot que j'aimerais employer, en fait.
Ouais.
Mais en fait, ouais.
Tu parles de superstition parce qu'il y a des... Il parle de choses qui semblent impossibles.
Mm-hmm.
Mais c'est là où c'est bien sa lecture du monde à lui qui est, bon, déjà je pense qu'il a un esprit particulier,
mmh.
et que cette façon décalée de voir les choses est en fait pour moi voilà une vision de l'invisible que d'autres n'ont pas, mais qui est peut-être qui peut être qualifiée de superstition quand on se situe à l'extérieur. Mais comme j'ai vécu, moi j'ai reçu ce texte entièrement par sa vision à lui,
mm-hmm.
pour moi c'était naturel. Donc
ouais.
c'est là où c'est pas des superstitions,
tout à fait,
effectivement,
tout à fait.
C'est juste les autres qui comprennent pas.
Ouais. C'est un voyage dans le temps.
C'est un voyage dans le temps, surtout dans le cœur de quelqu'un, je pense.
Ouais.
Et oui, j'ai été transportée. Moi, je te dis Renaissance. Peut-être ça aurait pu être au Moyen. Ça aurait pu être n'importe quand. En fait, je connais pas spécifiquement cette période.
Ouais.
Je suis pas forcément très calée en histoire. Donc, il a fallu que je me renseigne un peu pour être sûre que certains mots que j'allais employer étaient les bons.
Mmh.
Et je me rappelle de l'arbalète, par exemple. Je me suis dit, ok, il me parle d'une arbalète. Est-ce que ça correspond à l'époque ? Enfin.
Ouais.
Et donc oui, c'était le cas,
d'accord,
ça marchait.
Très bien.
Mais moi-même, j'étais déjà, c'est bon, ça marche. J'étais surprise de la précision en fait des informations que je recevais sans avoir de connaissances spécifiques.
Mmh.
Voilà, donc c'est il m'a emmenée en voyage dans sa vie. Bon, il se trouve que c'était cette époque, ouais.
Un voyage dans les sentiments, un voyage dans les émotions.
Ouais.
Il y a une telle précision des mots, arbalète, un emploi très juste, une acuité très posée. C'est quasiment palpable en fait. C'est mon ressenti.
Mmh.
Et on se sent plongé dans ton histoire. Moi, je trouve ça très, très impressionnant. Est-ce que tu veux nous en lire un extrait ?
Oui, si tu veux.
Avec plaisir.
Bon, j'allume la lumière.
Bah oui.
Que je le trouve. C'est sympa.
C'est tout le charme d'une interview chez l'autrice.
Voilà.
J'ai ce grand privilège. Donc. Merci de ton accueil.
Ur, non féminin. Tête du sanglier, du cochon, et par extension de certains animaux. En ancien français, poil qui couvre la tête de l'homme ou des animaux, et par extension, visage hirsute ou négligé. La joue posée sur la terre moite éclate en moi un stupéfiant sentiment de paix. Ces premiers moments de la mort ressemblent au sommeil. Je revois comme en un rêve obsédant, tombé par la fenêtre, le corps de mon âme sœur animale. Ses membres tordus, ses cheveux cassés dans le vent de la chute. L'image d'elle étalée par terre m'est inconnaissable. Elle ne m'était familière que par mes sens infusés de poison. Je revois aussi mon reflet fugace dans la vitre cassée. Couronnée des branches de l'arbre qui m'ont griffée sans me retenir. ou bien était-ce des bois poussés sur mon crâne? Dans ces limbes lumineuses, suis-je enfin devenu cerf, mâle souverain de la forêt? Repose en paix, François Gatt. 27 octobre 1557, 17 août 1574. Étrange fils aimé. Mon père a gravé d'une main rageuse ce mot étrange sur la pierre de ma tombe. Il m'a aimé avec compassion, mais je suis pour lui un diable qui a hanté sa maison. Il ne croit pas que je puisse être en paix. Avant que ma mâchoire heurte le sol, j'ai peur de découvrir qu'il avait raison. Mais alors que je suis au chaud, dans l'odeur de l'humus, le ciel s'ouvre et m'accueille. Ainsi, c'est à moi et non à lui de raconter ce qui s'est passé.
On va s'arrêter là, c'est très beau. Et voilà, bah moi, ton texte, il a fait émerger en moi un imaginaire très fort. Et je sais que, encore une fois, ça revient en t'entendant. Et ça va au-delà des émotions. Je crois que c'est corporel, je crois que c'est viscéral. En fait, je ne parviens même pas à l'expliquer. C'est un ressenti, des impressions, un temps suspendu qui va au-delà d'une lecture. Et c'est déjà beaucoup. Bon, ta nouvelle m'a prise au cœur et au corps. Est-ce que tu perçois, encore une fois, est-ce que tu as conscience de l'émotion que suscite ton texte, de sa puissance?
Moi, la seule chose que je ressens, c'est ce que j'ai ressenti quand je l'ai écrit, parce que j'ai été saisie moi-même par tout ce qui m'était amené. Et j'ai mis du temps à l'écrire, parce que justement, je me disais, mais comment est-ce que je vais arriver à retranscrire tout ce que je reçois? C'est pas possible, est-ce que les mots vont suffire pour expliquer tout ce que j'ai à dire? Est-ce que je vais pas trahir ce qui m'est offert, cette histoire qui m'est offerte? C'était pas très simple pour moi de me lancer, parce que les mots, d'ailleurs mon personnage le dit aussi, mais parfois les mots, ils peuvent être évocateurs, mais ils peuvent réduire aussi. Parfois, ils ne suffisent pas à dire tout ce qu'on a à dire.
Ouais.
Et je ne savais pas comment ça allait être reçu, je ne savais pas si ça allait toucher d'autres personnes. Moi, ça m'avait touché, moi. Ça m'a plus que touché, ça m'a emporté, puis ça m'a habité pendant longtemps. Hein.
Ouais.
Et c'en était obsédant, ouais. Et je savais pas comment, si ça allait jusqu'à aller toucher d'autres personnes, si ça allait traverser le papier et venir jusqu'à d'autres gens. J'étais pas sûre du tout.
C'est le cas parce que je sais que d'autres personnes m'en ont aussi parlé.
Ouais.
Parce qu'effectivement, ta nouvelle fait partie aussi de la collection éditée par Nathalie Georges, que j'ai eu la chance de recevoir pour un interview il y a quelques jours. Et tes nouvelles sont disponibles dans plein de lieux à Rennes. Le Fire, la librairie, et j'en ai parlé aussi à du monde. Et donc voilà.
Je vais fermer.
Il y a un petit appel dans la pièce à côté, donc on ferme la porte quelques secondes. Et ça nous fait bien rire. Donc oui, voilà. Donc j'ai vraiment un écho. Je vais pas parler d'un écho positif. C'est plus que positif. C'est un écho de ressenti, de force, de puissance et d'un appel. Alors je ne sais pas pourquoi les gens y vont, mais ils y vont et. Et ils vont à la librairie et je sais qu'il y a des ventes et je sais qu'ensuite il y a un écho et des gens qui en parlent. Voilà, évidemment, ils parlent aussi des autres nouvelles parce qu'elles sont aussi très intéressantes. Celle-ci a une résonance pour ma part, dans mon histoire personnelle peut-être, mais qui a un écho énorme et qui résonne autour de plein de gens. Et quelquefois, il s'avère qu'on se rencontre et on parle de ton texte, de ta nouvelle, parce qu'effectivement, elle a un écho, elle a une puissance, une profondeur forte, et qu'on a envie de mettre en avant parce qu'elle nous touche. Elle nous touche, et voilà. Donc si vous voulez aller à ce titre, allez à la librairie La Fayeur et dans d'autres lieux que je mettrai en description à la fin du podcast.
On peut le commander aussi partout, enfin voilà, par email auprès de Nathalie Georges, Animal debout.
Tout à fait. En fait, comment l'histoire a pris forme, tu m'en as parlé, j'ai bien compris, ça a pris du temps.
Oui.
Et en même temps, tu avais peut-être une deadline à laquelle peut-être rendre ce texte ou pas du tout.
Alors, non, pas du tout, parce que déjà je l'ai écrit en deux fois, parce que j'ai été bloquée au milieu du texte. J'avais réussi de mon mieux à transcrire toutes les premières informations que j'avais, les premières impressions.
D'accord.
Et à un moment donné, ça tournait en rond, je voyais pas comment ça allait se terminer. Je dis ok, mais ça va où? Enfin, j'étais complètement. Donc il a fallu que j'attende d'avoir écrit ça. Et en relisant, au bout de quelques temps, là voilà, il y a une autre scène qui est arrivée. Et qui était une scène antérieure à tout le récit, en fait, qui est le moment où il a un souvenir d'enfance. Et ce souvenir d'enfance a débloqué tout le reste, est venu conclure. J'ai aussi sollicité deux amis pour me relire, parce que ce qui s'est passé, c'est que moi j'étais tellement submergée d'impressions et j'étais aussi tellement dans sa vision subjective à lui qu'il y avait plein de choses qui n'étaient pas précises. Je disais il, elle, mais je précisais pas de quel personnage. Moi je savais, donc je précisais pas les personnages. Je disais là, mais je précisais pas les lieux, parce que pour moi c'était évident. Et donc, il y en a qui m'ont dit, c'est très chouette, mais on ne comprend rien. Je suis OK, d'accord. Donc, il va falloir que je sacrifie un peu de mystère pour quand même pouvoir expliquer aux personnes ce qui se passe. Donc, j'ai relu.
Ouais.
Voilà, en tenant compte de ça. Et après, je ne savais pas ce qu'allait arriver à ce texte. J'avais envie qu'il vive. Et il se trouve que très peu de temps après que j'ai terminé de l'écrire, je suis tombée sur la publication de Animal debout. Qui cherchait un texte en lien avec, ça s'appelait Géographie animale, cet appel à texte, et elle cherchait donc quelque chose qui parle du lien entre l'homme et l'animal, ce qui était pile poil dedans,
tout à fait.
Voilà.
Ouais. Et moi j'ajouterais donc effectivement, ta nouvelle elle est très compréhensible. Hein.
Ok.
Et c'est très chouette, très très compréhensible.
Mission réussie.
Voilà, et c'est chouette. Donc un petit peu quelques réorientations, en fonction, voilà.
Reprécision. Effectivement. Okay. Et c'est vrai qu'après les concepts qui étaient dedans, je me dis comment est-ce que je vais pouvoir expliquer ça, ce que je ressentais, parce qu'il parle de choses quand même très particulières, impalpables, et j'avais pas. Le vocabulaire spirituel qu'on peut avoir aujourd'hui, voilà, qui est très en vogue, il y avait des mots que je ne pouvais pas employer. Enfin, je me disais, je ne peux pas employer le mot énergie, par exemple. Donc, il y avait plein de fois, je me suis dit, aujourd'hui, on mettrait ça. Bah oui, mais non, là, non. Et finalement, c'était intéressant parce que dans l'énergie, on met tout et n'importe quoi. Et là, j'étais obligée de trouver par quoi lui venait. C'était des sensations, c'était des impressions, c'était des... Voilà. Chercher d'autres vocabulaires.
Eh bien, moi, je vous propose de partir dans le vocabulaire de la musique.
Ouais.
Et je vais vous proposer la musique que j'ai ressentie, qui m'a touchée en lien avec ton histoire, Elisabeth.
Ouais.
Si tu veux bien,
on va
écouter.
Bien sûr.
Max Richter. Bon, moi, j'en profite pour boire une gorgée, puisqu'on est au Sancerre. Donc,
musique qui me touche particulièrement et que je relie émotionnellement à ton texte là, Pure Elisabeth. Parlons encore de l'écriture, de ce processus créatif. L'écriture révèle des choses profondes, enfouies, aussi bien pour l'autrice, l'auteur, que le lecteur, la lectrice. Qu'est-ce que tu as découvert à travers elle?
À travers l'écriture en général?
À travers l'écriture de ce texte?
De ce texte-là?
Si tu veux, comme tu veux.
Dans celui-ci, ce qui était particulier, comme je l'ai déjà dit fois, c'est que je me suis vraiment sentie habitée par un autre personnage, une autre âme peut-être. Et quand je dis ça, voilà, j'ai eu des rêves, j'avais des pensées. Dans la journée, j'y pensais, c'était des choses qui revenaient. Et une fois que ça a été écrit, pas tout de suite,
ouais.
Parce que je l'ai relu pour le corriger, je l'ai relu pour plein de choses. Mm-hmm. Je l'ai relu je ne sais pas combien de fois.
Ouais.
Et il y a un moment donné, et c'était peut-être au moment où je l'ai envoyé pour la publication, je me suis dit là, il est terminé, il ne bougera plus. Mm-hmm. En le relisant cette fois, et surtout quand je l'ai relu une fois imprimé, en voyant le livre, je me suis dit, ok, mais il y a des morceaux de moi là-dedans, c'est pas que quelqu'un d'autre.
Ouais.
Il n'est pas venu à moi par hasard, normal.
Ouais, c'est ça.
Et là, je me suis dit, ok, en fait, il a révélé des morceaux de moi. Peut-être j'aurais pas dit les choses comme ça, mais oui. Mm. Il y a effectivement des morceaux de moi. Donc ça, ouais. c'est de se dire comment la voix, qui est peut-être celle de notre âme, peut se révéler en avançant parfois sous des masques ou sous des personnages, mais en empruntant des histoires, ouais.
Alors, est-ce qu'écrire, c'est aller à une rencontre?
Oui, mais celle de soi, mm-hmm. uniquement. Mm-hmm. Enfin, moi, je crois, en tout cas. Mm-hmm. Pour moi, c'est vraiment...
D'ailleurs, tu vois, la ouais. scène avant tout.
Oui, c'est parce que poser sur le papier des mots, c'est sur le papier, sur l'ordinateur, comme on veut. Déjà, on ne fait pas, on dit pas les choses comme on les dit à l'oral. Donc, on se permet des tournures, on se permet des jeux avec les mots, avec les sonorités. Même si pour moi, c'est très fluide, c'est pas quelque chose de travaillé, c'est vraiment un truc qui vient comme ça.
Ouais.
Mais oui, c'est des choses qui seraient pas dites. Donc, elles sont écrites. Donc cette rencontre-là, elle permet un dialogue avec soi, ouais.
Mm. Et on écrit pour laisser une trace?
Je sais pas.
Ouais.
Je sais pas si c'est laisser une trace. C'est dire ce qui n'est pas prononcé, ouais. C'est plutôt ça. C'est plutôt, plutôt donner un autre versant après. Pour la pérennité de ça, je sais pas si ça... Je sais pas. Non, ça ne m'a pas effleuré spécialement.
Ouais.
Je ne suis pas inquiète de l'éternité de mon âme, donc peu importe.
Oui, peu importe le médium, le support, je dirais, en tout cas, le texte est là.
Oui.
Il peut aussi se transmettre oralement.
Oui.
Là, l'information passe par la radio.
Oui.
Il est écrit, mais il est aussi audible. Il est lu, il peut encore l'être.
Oui.
Il peut être transmis, et ce personnage dont tu nous parles, il est aussi... réapparu ou il continue d'apparaître?
Non, pas en moi. Il m'a
D'accord.
pas, il est pas revenu m'embêter.
D'accord.
Je pense qu'il doit être content de ce que j'ai fait.
Bah, c'est génial. C'est
comme je te dis là, quand j'avais cette scène qui me bloquait, il continuait à m'embêter parce que c'était pas fini.
Okay.
Donc tant que ça n'a pas été terminé, que j'ai pas réussi à dire, il était là. Mais maintenant, peut-être ça l'a apaisé.
Ah, c'est ça.
Donc ouais, c'est fait, c'est chouette pour lui, pour moi.
On va continuer de parler de toi, si tu veux bien,
oui.
Mais un peu plus en profondeur, peut-être, non, même si là, c'est évidemment très profond, mais je veux dire, on va s'approcher un peu du sujet, toi.
Les mystères.
Bon, allez, une petite question, un petit peu, tu ne serais pas arrivée là, si, trois petits points.
Je ne serais pas arrivée là, alors...
À l'écriture, à cette nouvelle, bon, voilà, tu nous as... encore merci pour ces confidences, ta confiance, ces émotions qui passent. Après, on peut y revenir un petit peu plus tard. Peut-être qu'on peut écouter une musique qui s'appelle un chanteur que tu m'as fait découvrir.
Oui, Patrick Watson.
Nous n'irons pas sur cette question, mais Patrick Watson, voilà, s'il y en a une en particulier que tu veux faire découvrir aux éditrices et aux auditeurs.
Ouais, c'est un chanteur qui porte, c'est un compositeur d'ailleurs. Qui porte, je sais pas, toutes les émotions possibles à la fois, avec une seule, avec quelques notes et sa voix.
C'est ça. Allons-y.
Magique.
Patrick Watson.
Sit down beside me, stay a while. Let our hearts do their parts with wine and words to meet the hours, so the day never starts, 'cause that's what I want. That's what we need, 'cause that's what we want.
Très jolie voix, Patrick Watson.
Ouais.
Ouais, belle découverte. Et tu connais par exemple cet artiste depuis combien de temps? Tu l'as découvert
Il y a un an et demi, deux ans à peu près.
Okay.
Au hasard des vidéos musicales
qui
m'ont été proposées. Et ouais, c'était un gros coup de foudre.
Par exemple, tu l'écoutais quand tu écoutais la Hure?
Non.
Qu'est-ce que tu écoutais?
Mais je suis pas sûre que j'ai écouté quelque chose.
D'accord.
Même si j'aime bien écrire en musique.
Mm-hmm.
Mais en fait, j'étais tellement submergée d'informations sensorielles déjà. Mm-hmm. Je crois pas que je pouvais avoir de la musique en plus. C'était pas possible.
Ouais.
des émotions qui auraient pu arriver, se court-circuiter ou être trop, hein, trop plein ou...
Je n'avais même pas la place pour les entendre.
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'était parce que, après moi, j'ai une mémoire auditive et je fonctionne vraiment à l'audition. Mm-hmm. Et quand j'écris la plupart du temps, c'est que, moi, ça me vient comme de la musique. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est très, très fluide.
D'accord.
C'est, j'entends une forme de musique. Ouais. Alors, ça arrive parfois que ce soit posé sur des morceaux que je connais. Mm-hmm. Et donc, les mots ensuite. Donc là, je peux les écouter. Ça suit le cours naturel des choses. Mais parfois, voilà, c'est un air de musique qui vient de je sais pas où, que je saurais pas définir. C'est même pas vraiment de la musique, c'est de la sonorité des mots, une rythmique. Et voilà, et là ça me pousse à écrire et voilà, je dois faire comme ça.
Ok. Bah, par exemple, un petit peu parlons encore écriture et des méthodes et autres. Comment en fait et quand écris-tu ? Alors là, on peut extrapoler.
Ouais.
Bah, s'arrêter à cette nouvelle comme tu veux.
Ouais.
Comment est ce processus créatif dans ton quotidien ?
Bah, déjà, c'est pas quotidien.
Ouais.
C'est pas quelque chose auquel je m'astreins.
Mm-hmm.
Même si ça peut m'amuser sur des courtes périodes, voilà, de faire des défis d'écriture sur un mois, mm-hmm. voilà, sur des textes courts.
Mm-hmm.
Et puis voilà, de s'amuser avec des contraintes ou des choses comme ça.
Mm-hmm.
Mais non, ça va être par période. Souvent c'est la nuit, peut-être parce que justement on n'est pas dans le quotidien et parce qu'on est plus disponible, je suis plus disponible pour écouter ce qui se passe voilà, à l'intérieur. Et c'est souvent porté par c'est des émotions qui surgissent. Alors, les émotions elles peuvent faire plein de choses quand elles surgissent dans nos vies. Des fois, je les vis telles quelles et j'en fais rien d'autre. Et parfois je les écris. Je les transmute
ouais.
en histoire. Je les écris pas telles quelles, je les transforme.
Voilà. Chouette. Chouette. Bah alors, est-ce que l'écriture ouvre des portes ? Ou est-ce que les portes sont là et
l'écriture est une porte peut-être, est une voie.
Mm-hmm.
C'est une
mm-hmm.
voie en tout cas.
Mm-hmm.
Une voie vers soi, comme on disait tout à l'heure, la rencontre avec soi. C'est une voie VOIE, mais VOIX
ouais,
aussi.
Tout à fait, ouais.
Pour moi, c'est une formidable façon de poser sa voix. La voix de qui on est. Oui, donc c'est une voie de réalisation et de... Mais pas uniquement, c'est pas le but, c'est vraiment... C'est dire l'intime sans se dévoiler entièrement non plus parce que je raconte pas ma vie. Mais finalement, c'est beaucoup plus intime sans donner les détails de ce qui se passe dans mon quotidien. Je vais aller chercher des choses. Enfin, je vais pas aller chercher, c'est elles qui viennent me chercher, qui viennent me prendre et se raconter. Et ouais, j'ai toujours été surprise de voir que cette voie-là de l'intime ouvre une voie vers l'intime de l'autre.
Ouais.
Ouais. Mais ça, on ne peut pas le savoir tant que les autres n'ont pas lu. Donc, c'est un pas à franchir aussi.
Oui. Se déposséder de son texte pour en laisser d'autres en prendre un peu possession, partager,
ouais.
Accepter de ouais. le voir, non pas partir parce qu'il est tien, et il sera toujours tien, et en même temps, il appartient un peu quand même.
Oui.
Aux lectrices et aux lecteurs.
Ouais. C'est un peu particulier ce moment-là, je
Ça s'appelle couper le cordon, je ne sais pas.
Oui, c'est pas tellement ça, c'est se dire. Mais parce qu'en fait, c'est peut-être ma grande inquiétude. D'ailleurs, c'est une inquiétude de mon personnage aussi, celui
ouais.
de n'être jamais compris. Et j'ai beau essayer d'avoir les mots aussi précis que possible et de chercher vraiment. Je me dis, est-ce que C'est moi que j'ai envie de dire, c'est des choses tellement intimes et qui me paraissent tellement particulières, mm-hmm. puisqu'elles sont singulières à moi.
Mm-hmm.
Alors, selon les personnes, il y en a qui reçoivent ça d'une manière très très différente. Mm-hmm. Mais c'est vrai que j'ai été surprise assez souvent de voir que bah, finalement c'était bien reçu. Comme c'était donné en fait.
Ouais. Mm. Et je pense que c'est d'autant mieux reçu qu'il est extrêmement et généreusement donné. Donc.
Je sais pas si c'est.
Bien écrit, enfin voilà.
Je sais pas si c'est. Oui, dans ce sens-là, tu veux dire.
Bon, l'imaginaire, voilà, il y a la réalité, il y a l'envie,
oui.
Il y a ce métissage, ce lien qui s'entremêle, on va dire, enfin, pour être déposé à un moment donné après avoir été créé.
Oui.
C'est quelque chose qui est très bien accueilli. Encore une fois, je le redis.
C'est chouette.
par les échos que j'en ai.
C'est chouette.
Lecteurs, professionnels.
C'est une vraie étape pour moi, la publication et la lecture de l'autre. Ça, parce que, bon, tel que je t'ai décrit le processus d'écriture, c'est déjà, y a vraiment une alchimie intérieure qui est difficile à expliquer, mais voilà, qui se produit. Et il y a dans ce processus de publication et de réception par l'autre, ça me permet quelque part, c'est peut-être ça, couper le cordon, comme tu disais tout à l'heure, mais de dire, ok, ça, ouais, j'ai pu déposer ça, vraiment, je l'ai déposé. Donc c'est peut-être une générosité, mais il y a aussi pour moi un cadeau dans le fait de... Je peux m'occuper d'autre chose maintenant, ça c'est fait.
Ouais.
Et je passe à autre chose.
Est-ce que tu vas passer à encore de l'écriture, par exemple? Parce que tu peux nous dire, de toute façon, tu es écrivaine, tu es autrice.
J'essaye, ouais.
Donc,
ouais.
Je fais plus qu'essayer. Dans quelle mesure le livre et son contenu contribuent-ils encore, selon toi, à quelque chose? Et à quoi cet objet livre qu'on trouve en librairie dont on parle?
Pour moi, si je me réfère à mon enfance, à comment j'ai grandi en tout cas, les livres, c'était mes meilleurs amis. C'était des rencontres, effectivement.
Est-ce qu'il y a un livre en particulier dont tu te souviens en évoquant justement ton enfance?
Alors celui que j'ai relu, je ne sais pas combien de fois, c'était Un conte de Noël de Dickens.
Ok, ok.
Voilà, c'est l'histoire là que tout le monde connaît, parce qu'ils ont fait une version avec Mickey. Avec le fantôme des Noëls passés, présents et futurs.
Ouais, ouais, ouais.
Et j'ai trouvé cette histoire fabuleuse, ouais. Mmh. Voilà, mais j'aime bien cette idée de voyage dans le temps, alors peut-être que c'est pour ça que ce livre me plaisait beaucoup aussi. De voyager dans le temps avec juste sa conscience.
Encore une fois, l'imaginaire et...
Ouais, pour moi, l'imaginaire qui est du réel, pas encore réalisé, mais oui.
Et, bon, allez, après avoir parlé du livre de cette manière, est-ce que, par exemple, aujourd'hui, tu as un livre coup de cœur?
Aujourd'hui, un livre coup de cœur. Bah, j'ai adoré, j'en ai parlé hier, je crois, de Carole Martinez, du Domaine des Murmures.
Oui, Carole Martinez, du Domaine des Murmures, oui.
Voilà, que j'ai lu après avoir écrit La Hure, et j'ai trouvé des échos étonnants. Dire, mais ouais, là aussi, elle a chopé une âme du passé qui lui parle. Il n'y a pas que moi, donc. Ça va. Et ouais, cette espèce de voyage dans une autre époque par une âme, c'était très beau. Ça m'a beaucoup touchée.
D'accord. Et par rapport à l'écriture, quand une idée jaillit,
oui.
Est-ce que tu prends des notes ou est-ce que tu fabriques tout ça un petit peu dans ta tête et puis après tu l'écris, tu la couches, cette idée sur un papier, comment tu fais?
Non, pas du tout. J'ai pas d'idée qui jaillisse parce que vraiment c'est pareil, je travaille beaucoup. Ma matière première, c'est les sensations.
D'accord.
Les sensations et les sensations qui découlent d'émotions, qui découlent de mouvements intérieurs. Mmh. Et ça se structure pas vraiment. Mmh. Donc je vais écrire d'un seul jet, généralement.
D'accord.
Je relis, je corrige assez peu, souvent. Et parce que je suis étonnée moi-même de la cohérence finale du truc. J'ai tellement écrit d'un seul geste sans réfléchir, en étant juste à l'écoute de cette espèce de rythme intérieur et de musique intérieure.
Ouais.
Quand je relis, je me dis qu'est-ce que ça va donner. Et il me faudrait beaucoup de temps. Ça m'arrive, des textes plus anciens qui ont quelques années maintenant, de me dire, ah oui, là, je le ferais différemment maintenant. Je pourrais le corriger et changer des choses.
D'accord.
Mais ça met du temps, généralement, sur le moment, je le trouve cohérent tel quel, et voilà. Bon, après, c'est des textes courts, souvent, qui font 2-3 pages, choses comme ça. Enfin, là, c'était un tout petit peu plus long, je ne me suis pas encore lancée dans le roman, donc je ne sais pas.
Tu m'as dit que tu écrivais la nuit.
Oui.
Où est-ce que tu écris? Il y a un endroit que tu préfères? Chez toi, en extérieur?
Dans mon
lit. Je ne vais pas dire dans un bar ni dans un café.
Non, malheureusement.
On sait pourquoi et c'est pas prêt d'ouvrir, mais on y croit très fort.
Ouais.
Je rappelle d'ailleurs l'occupation à Rennes, à l'Opéra.
voilà, qui a lieu en ce moment et dans beaucoup de lieux en France.
Angoulême.
Angoulême, voilà, j'ai vu ça ce matin, le théâtre est occupé aussi.
Ouais.
Bah ouais, t'écris où en fait ?
Donc la nuit, souvent dans mon lit, hein, bah, c'est basiquement,
bah,
mais c'est confortable.
C'est
puis,
ça.
Puis voilà, puis ça me rappelle assez, vraiment quand j'étais petite, le lit c'était le bateau sur l'océan, quoi. Donc,
okay.
Donc c'était mon territoire.
Mm-hmm.
Sinon, ça m'arrive aussi d'écrire alors, sur des carnets, dehors. J'aime bien écrire dans la nature. Alors pas la nuit là pour le coup, c'est un peu compliqué techniquement. Mais oui, ça, j'aime bien ça aussi de temps en temps, posant au pied d'un arbre, sur un rocher. Voilà.
Donc t'écris plutôt avec un stylo.
Ouais, j'écris plutôt avec un stylo, même si j'écris aussi parfois sur ordinateur, selon le cas, selon le moment où je me lance, sur mon téléphone même des fois.
Ben voilà. Oui, c'est ça, des fois on part, on a une idée, enfin, ou un petit truc.
Ouais, un truc qui surgit. Et c'est
ça,
là.
Question, bon, allez, quelle est la phase la plus difficile dans l'écriture selon toi et pour toi ?
C'est la structuration d'un récit.
Mm-hmm.
Parce que, comme je te dis, je fais beaucoup de textes courts et qui parlent de plutôt de mouvements intérieurs. Et j'ai envie de raconter des histoires, mais ça demande une certaine structure. Même si là, dans ce récit, la urge, il est. C'était des surgissements de moments, il a fallu effectivement que je les remette en ordre pour que ça ait une cohérence, un lien logique. J'essaie d'être juste chronologique en fait, pour que ça puisse se suivre. Ouais, et ça, c'est la partie pas facile pour moi, la structuration. Mais ça vaut la peine.
Bien sûr, ben oui, c'est ça. Oui. Bon, on va parler un petit peu de l'édition. Ce très bel objet livre, cet objet littéraire, comme je le disais avec l'interview avec Nathalie Georges, qui a. Cette particularité, enfin, c'est une chose très beau. Il peut être posé, c'est un objet, un objet d'art. Et évidemment, le contenu est très très important. Et l'extérieur est aussi très important. Donc, cette couverture bicolore avec ce petit liseré, est-ce que tu veux nous décrire la collection et enfin, en tout cas, le numéro 4 que tu portes, Fabuleux Opuscule.
Et bien, il y a une très très belle couverture cartonnée portant un magnifique sanglier rouge. Sur fond de pelage. Et ouais, c'était. D'ailleurs, je me suis aperçue que le mot sanglier n'était jamais dans le texte, à aucun moment. Et donc, bah, je suis contente qu'il soit sur la couverture, quand même, pour lui faire un hommage total.
Ouais, c'est ça. Voilà, le numéro 4. Il est paru en novembre.
En décembre 2020, ouais.
Ok.
Avec quatre autres auteurs.
Oui.
Voilà, de la même collection.
Alors, est-ce que par exemple, pour écrire, tu as écrit la nuit dans ton lit,
ouais.
Bon, t'as pas besoin d'une certaine ambiance, non ? C'est tu te dis là, par exemple, j'ai envie d'écrire, ou là, je suis disponible, ou je veux accueillir des émotions, enfin, c'est...
Non, c'est vraiment l'inverse, c'est les émotions qui viennent chercher.
Ça
m'arrive d'être en train de m'endormir ou de somnoler, ou même de me réveiller en pleine nuit et me dire, ok, là, d'accord, j'ai des mots qui vont être là, qui vont m'obséder.
D'accord.
Et bon, tant que je ne les ai pas écrits, je ne dormirai pas, quoi. Donc, ça m'arrive aussi au réveil le matin. Je me réveille avec une phrase et elle est là toute la journée. Et elle tourne, et elle tourne, et elle tourne.
D'accord.
Et j'ai que cette phrase, souvent, j'ai qu'une première phrase.
Mm-hmm.
Et donc, ben, au bout d'un moment, je dis, quand elle est là, ok, d'accord, je t'écris. Et une fois que je l'écris, le reste vient, seul.
D'accord.
Et là, voilà. Okay. Donc, et là, c'est bon, ça me laisse en paix.
Ah ouais, c'est ça.
Ouais.
C'est une amorce, en fait. Elle annonce autre chose.
Ouais. Elle annonce la couleur, hein, de ce qu'il y a derrière.
Ouais, c'est ça, développer à naître.
C'est ça.
À surgir.
Ouais. C'est, je choisis pas. Hein, c'est presque comme si j'étais manipulée par, je sais pas d'où ça vient. Je sais pas quoi dire. C'est comme ça.
Donc l'envie d'écrire, elle vient de la lecture de ce conte de ton enfance. Qu'est-ce qui a fait surgir vraiment le désir d'écrire
Je ne sais pas si c'était un désir, plutôt qu'une évidence. Je crois que je suis née avec cette idée que je serais écrivaine.
Oui, parce que je tiens à dire que tu m'avais confié, je te cite,
oui.
Quand j'étais petite, une des raisons pour lesquelles je voulais être écrivaine...
Mm-hmm.
c'était pour m'octroyer le droit d'inventer des mots sans qu'ils soient soulignés en rouge.
Oui.
Et voilà, j'ai adoré cette... Ouais.
Mais oui, parce que je pense que je savais que j'étais là...
Que ouais. Tu m'avais faite, ouais.
Ouais, ouais. J'étais là pour... je savais que je savais écrire.
Ouais.
Et c'est dans mes rédactions, hein, dès la primaire... Ou d'ailleurs, enfin voilà, c'était remarqué par mes instituteurs alors. Hein, et à chaque fois, il y avait un petit temps d'adaptation, le temps qu'ils comprennent que non, j'avais... Oui, c'était un peu fait exprès, ce mot, j'avais inventé. Et, et c'était pas parce que j'avais pas compris ce qu'il fallait dire, non, c'était volontaire. Donc ouais, ce passage de... un jour, mes mots ne seront plus soulignés en rouge.
C'est
du barbarisme au néologisme. Il y a une prof en sixième qui m'avait dit ça. Elle dit, vous aurez droit au barbarisme quand vous serez écrivaine. Je préfère des néologismes. Donc, je l'ai prise au mot.
C'est ça. Pour notre plus grand plaisir. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, cet élan de vie enfant t'a porté, t'a nourri.
Ouais. Même si je l'ai retenu longtemps, je pense.
Ouais.
Parce que c'est un travail d'écrire.
Bien sûr.
S'y mettre, ça prend du temps. Ça m'empêche de dormir par moments.
Hein, ouais, ça te remue quand même. Voilà,
donc,
c'est ça.
Ben
c'est,
ouais, bien sûr. Ouais,
c'est
donc,
perturbant. C'est...
Ouais, ouais. Et puis en plus, il y a le vraiment socialement. C'est... Mais à quoi bon? Franchement, en plus, ça sert à quoi? Ouais, mais parce que j'ai envie, ouais. Parce que je sais le faire surtout.
Ouais.
Je sais le faire, je sais pas d'où ça vient, hein, c'est pas je sais le faire.
Donc, voilà. Tu disais à quoi ça sert, mais à quoi sert la littérature, Elisabeth?
Non, mais à rien, mais c'est ça qui est génial, c'est que ça sert à rien, mais comme plein de choses qui servent à rien, on peut pas tellement s'en passer. Et puis c'est des voyages, quoi.
Ouais, ce sont des voyages.
C'est des voyages à l'intérieur des gens, je pense, plus qu'autre chose.
Ouais, ouais. Et je crois profondément à l'impact d'un texte dans une vie, à la force des émotions dans l'écriture, dans l'art. Donc effectivement, ça ne sert en soi à rien, mais par contre, le tout arrive par justement le fait que ça ne serve à rien. Et la hure, notamment, je trouve qu'elle a une puissance magnétique, un aura qui plonge, qui touche l'âme. Ça a été mon cas, et c'est le cas de nombreuses personnes. Le lire, c'est plonger en soi, en ses racines, en ses origines, mais pas seulement. On y trouve un terreau fertile, un parfum boisé, et de l'amour. Moi, je crois que c'est tout cela qui m'a atteint, en fait. Voilà. Donc, merci beaucoup, Elisabeth.
Avec plaisir. Merci d'être venue.
Pour cette grande confidence, cette authenticité. On a très hâte de te lire... dans des prochains livres, prochainement.
On verra ce qui me réveille la nuit.
Merci beaucoup. On va terminer cet entretien avec Patrick Watson.
Oui.
Une chanson que tu apprécies aussi particulièrement. Donc, eh bien, écoutons cet homme à la voix charmante.
Ok.
Merci encore, Elisabeth.
Merci à
toi. Merci beaucoup.
À bientôt.
Quand tu voudras, amasse-moi.
écouté « Je te laisse les mots », une chanson de Patrick Watson. Et c'est déjà l'heure de se quitter chez Jerry Craché sur vos ondes. Sandrine, tu as peut-être un dernier mot à nous partager à l'antenne ?
Ouais. Eh bien, je remercie encore beaucoup Elisabeth pour son temps, sa disponibilité, sa générosité et son authenticité. Un mot qu'elle m'a refait découvrir récemment et ça me touche beaucoup. Et puis clin d'œil à Rose.
Qui n'est pas un enfant de 5 ans, mais un chat.
Oui, un très joli chat. Eh bien, à bientôt. Je vous embrasse.
À bientôt et à la semaine prochaine.